La vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Pour la troisième fois ce matin, je vous propose de parler de ce thème de la connaissance de Dieu. Au cours de notre première réflexion, nous avons vu combien grandir dans la connaissance de Dieu était la plus grande quête qui soit donnée à l'homme sur cette terre. Et nous avons regardé comment aller dans cette direction, en se penchant d'abord vers sa parole, la Bible, seule source qui nous donnera une bonne compréhension de Dieu, et puis aussi en s'engageant auprès de lui, en vivant une relation avec lui, pour approfondir notre compréhension concrète, vécue de Dieu. Et puis, durant la deuxième réflexion le mois dernier, nous avons démarré notre découverte de certaines caractéristiques fortes de Dieu en évoquant le Dieu de majesté, son infinité, le créateur infini de l'univers, son indépendance, il n'a pas besoin de nous ni de notre amour, tout est donc gratuit, et sa souveraineté, il dirige et maîtrise toutes choses en tout temps. Des réalités qui nous ont poussés à la confiance et en l'adoration envers ce Dieu si extraordinaire. Et aujourd'hui, je vous invite donc à continuer et à nous pencher sur une autre facette, entre guillemets, de Dieu, une facette que l'on pourrait résumer sous le thème suivant, le Dieu de vérité. Puis nous terminerons début juillet cette petite série de la plus belle des manières en nous arrêtant cette fois sur le Dieu d'amour. Voilà pour le programme. Mais penchons-nous donc sur ce qui va nous occuper ce matin, à savoir, Dieu est un Dieu de vérité. Notre Dieu est vrai. Toutes ses paroles et toutes ses actions sont vraies. Et on peut entendre dans ce mot deux nuances différentes. Vrai d'abord, au sens d'intellectuellement vrai. Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu ne prend jamais de mauvaises décisions. Tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est vrai, c'est-à-dire parfaitement correct. Et puis, une deuxième nuance, Dieu est vrai au sens de moralement vrai. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait est juste, au service du bien. Toutes ses actions et toutes ses paroles sont vraies. Elles sont bonnes dans leur contenu et dans leur but. En résumé, Dieu est vrai dans son savoir et dans ses objectifs. Il ne peut pas tromper les autres, ni se tromper lui-même. C'est sa nature. Et cet état de Dieu induit, me semble-t-il, deux conséquences majeures qui vont avoir un impact direct sur nous. Et ce sont ces deux conséquences que je vous propose de voir. Parce que Dieu est parfaitement vrai au sens de la définition qu'on vient d'en donner, alors nous pouvons affirmer en conséquence que Dieu est parfaitement sage et également que Dieu est parfaitement juste. Sagesse et justice, voici effectivement deux caractéristiques essentielles du Dieu de vérité et essentielles à comprendre pour celui qui veut grandir dans sa connaissance. Nous allons parler de la sagesse de Dieu et de ce qu'elle implique pour nos vies. Nous allons parler de la justice de Dieu et de ce qu'elle implique pour nos vies. Et nous allons voir que pour celui qui choisit de s'attacher à ce Dieu, ces réalités sont de vrais sujets de joie et d'espérance. Et je démarre donc avec le premier point. Puisque Dieu est parfaitement vrai, alors, cela veut dire qu'en toute occasion, il choisit toujours les meilleures fins ainsi que les meilleurs moyens pour y parvenir. Communément, c'est ce qu'on appelle la sagesse. James Packer dit « La sagesse, c'est la faculté de discerner et le désir de donner le meilleur et le plus noble des objectifs ainsi que les moyens les plus sûrs pour l'atteindre. » Et Dieu, donc, possède cette sagesse à l'infini. Job 12, 13, auprès de Dieu se trouvent la sagesse et la force. C'est à lui qu'appartiennent conseil et intelligence. Romains 16, 27, à ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire de siècle en siècle par Jésus-Christ. C'est par exemple avec une parfaite sagesse que Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Lisons à ce sujet ce magnifique poème que l'on trouve dans le livre des Proverbes et qui nous raconte comment Dieu créa toutes choses avec sagesse. L'Éternel me possédait. Et l'auteur est en train de parler de la sagesse qu'il personnifie dans ce poème. L'Éternel me possédait tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. J'ai été établi dès les temps éternels, bien avant que la terre ne fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan n'existe et avant que les sources n'aient fait jaillir leurs eaux surabondantes. Avant que les montagnes n'aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, la sagesse donc, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre. Sans cesse objet de ses délices, je dansais devant lui, jour après jour, jouant sur la surface de la terre, je trouvais mes délices dans les êtres humains. La danse de la sagesse lors de la création. Et il suffit effectivement de contempler la profondeur de l'univers, ou même la beauté et la diversité de nos paysages, pour se faire une idée de cette intelligence infinie qui a créé le monde. Ou encore, il suffit de se plonger dans la complexité des mécanismes de l'être humain pour être convaincu de cela. Rappelez-vous, peut-être pour certains, vos leçons de biologie au lycée qui décrivaient la génétique, les systèmes nerveux ou immunitaires ou encore la conception d'un enfant. Et j'en passe. On découvre dans toutes ces choses un savoir, un art, une technique, une beauté, une complexité qui nous dépasse. Et qui montre cette sagesse de Dieu dans la création. Oui, avec le psalmiste, nous pouvons dire « Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu as tout fait avec sagesse. » Et puis, on continue. La sagesse parfaite de Dieu se voit également dans le plan de la rédemption, c'est-à-dire dans la manière dont Dieu a choisi de nous sauver. Et pourtant, a priori, ce plan paraît si fou. Le Fils unique de Dieu, deuxième personne de la Trinité, pleine de gloire et de majesté, qui vient en homme mourir crucifié sur un bout de bois au milieu d'une humanité déchaînée qui le rejette. Oui, ce plan paraît une folie. Et on voit bien encore aujourd'hui combien il est considéré comme tel. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Et on pourrait rajouter les musulmans aujourd'hui ou tant d'autres pour qui la croix est scandaleuse ou absurde. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Et oui, ce salut que l'on accueille au moyen de la foi seule, gommant ainsi en nous ce vain espoir de prétendre mériter Dieu par nos propres forces, ce salut est l'exemple parfait de la sagesse de Dieu. Dieu choisit toujours les meilleures fins et les meilleurs moyens pour y parvenir. dans la création, dans la rédemption et en toutes choses, Dieu est sage. Croyez-vous cela ? Croyez-vous cela ? Et si vous me le permettez, je vous dirai, réfléchissez bien quand même avant de répondre. Car à partir du moment où on affirme que Dieu est parfaitement sage en tout, alors vous conviendrez avec moi qu'on affirme également qu'il est donc aussi parfaitement sage dans sa manière de conduire nos vies. Et qu'il fait effectivement, en particulier comme il est écrit, tout concourir à notre bien dans notre vie. Mais ça, le croyez-vous aussi? Le croyons-nous aussi? Théoriquement, sans aucun doute, j'en suis sûr. Mais dans la pratique, quand tout semble aller à l'envers ou de travers, sommes-nous encore autant convaincus que Dieu est sage quand il conduit nos vies? C'est moins évident. Et pourtant, je le répète, Dieu fait preuve de la même sagesse dans la gestion des événements de nos vies, quels qu'ils soient, que dans la création de l'univers ou dans son plan de salut pour l'humanité. Et c'est une vérité que nous sommes appelés à saisir, même si on est tous d'accord, c'est loin d'être facile. Mais une vérité que nous sommes appelés à prendre pour nous et à vivre. Mais sans doute, pour nous aider à cela, nous faut-il d'abord mieux comprendre quel est le but de l'œuvre de Dieu pour nous. C'est une évidence. Si nous voulons accueillir la sagesse de Dieu dans nos vies, il nous faut comprendre quelle fin il cherche à atteindre. C'est une évidence, oui, mais c'est peut-être malgré tout un point de tension. Car on aurait tellement envie de croire que le seul but que Dieu recherche pour nous, c'est que nous ayons une belle vie. Une vie facile et sans soucis. Une vie exempte de douleurs et de contrariétés. Ou tout au moins, une vie qui en a le moins possible. Et si ce n'est pas le cas, alors nous estimons que Dieu a failli et qu'il a manqué de sagesse. Ou alors de puissance, ce qui revient plus ou moins au même. Mais pourtant, ne nous trompons pas là-dessus. Tel n'est pas l'objectif de Dieu. Ce n'est pas même son intention. Dieu ne nous promet jamais le ciel sur la terre. Le ciel est pour le ciel. Non, il recherche en fait autre chose. À travers sa parole, nous voyons que l'objectif de Dieu pour nos vies est que nous vivions pour sa gloire, que nos vies entières soient un acte d'adoration et d'amour envers lui. Et il va donc tout faire et tout utiliser, même les difficultés, dans cet objectif-là. Et cela, croyons-le, il va le faire avec sa sagesse. Mais une sagesse, c'est clair, que nous ne pourrons probablement jamais pleinement cerner. Car tout simplement, nous n'avons pas le recul ou la connaissance suffisante pour le faire et pour juger de ce qui nous fera vraiment avancer dans cette direction. Nous sommes au volant de notre voiture, découvrant la route kilomètre après kilomètre. Alors que Dieu, tel un GPS, a déjà calculé tous les itinéraires possibles, tous les ralentissements, toutes les voies sans issue, ou au contraire, toutes les voies rapides qui nous feront arriver à destination plus efficacement. Même si parfois ces routes nous sembleront bien étroites. L'Ecclésiaste disait « Tu ignores quel est le chemin du vent et tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. » Nous n'avons pas la capacité de savoir ce qui s'avérera être bon pour nous dans l'objectif de Dieu à un moment de notre vie. Nous n'avons pas cette capacité car tout simplement, nous n'avons pas la sagesse de Dieu. Alors que faire? Eh bien, mais c'est un pas de foi. Apprenons à nous attacher à sa sagesse, à lui. Mettons en œuvre, bien entendu, notre propre intelligence, fondée sur la parole, sur les commandements de Dieu, pour tirer le meilleur parti de ce qui nous est imparti. Persévérons aussi dans la prière active face aux événements, car Dieu nous rend participants de son œuvre. Mais pour le reste, faisons confiance à Dieu. Il fera ce qu'il convient, puisqu'il l'a promis. Une sagesse parfaite pour nous en tout temps et en toute occasion. Voici la promesse que Dieu nous fait. Accrochons-nous-y par la foi et avec foi. Voilà, j'en termine avec cette première partie. Et je vous invite maintenant à passer, mais sans transition, à ce deuxième thème qui découle du Dieu de vérité. Un thème qui va nous parler d'autre chose concernant Dieu, même si bien sûr on le retrouve avec la sagesse sous ce même dénominateur commun qu'est la vérité. Puisque Dieu est vrai, alors cela veut aussi dire qu'il est juste. Et comme il est le critère suprême de ce qui est juste, il doit donc, par nature, poser son verdict sur ce qui n'est pas juste, sur le contraire du vrai. Nous allons donc parler, dans cette poursuite de notre quête de la connaissance de Dieu, du thème de sa justice. Et avec lui, a fortiori, je dirais, de son corollaire, à savoir la question du jugement de Dieu, l'expression souveraine de sa justice et de sa vérité. Justice et jugement. Soyons honnêtes, on n'arrive pas ici à la caractéristique la plus facile ou la plus agréable ou la plus populaire. Et peut-être plus encore dans notre société occidentale du XXIe siècle. Cette société qui a quand même particulièrement du mal avec l'idée de devoir rendre un jour des comptes au tribunal d'une autorité suprême qui prétend tracer de manière absolue la frontière entre le bien et le mal. Et parce que nous sommes de cette société, sans doute avons-nous aussi du mal avec cela. Parlez-moi d'amour, de paix et de pardon, et je serai heureux de vous écouter. Mais parlez-moi de jugement, de transgression, de condamnation ou de colère divine, et alors là, je serai vite choqué par votre étroitesse d'esprit et votre comportement digne de notre temps. Oui, nous voici devant un thème qui crée le malaise. Et pourtant, la colère et le jugement divin sont tellement présents dans l'Écriture qu'on ne pourrait prétendre grandir dans la connaissance de Dieu si on les passait sous silence ou si on les atténuait d'une manière ou d'une autre. Car la Bible l'affirme. Parce qu'il est parfaitement vrai, notre Dieu est un Dieu qui ne peut pas accepter le mal et qui le jugera donc sans aucun compromis. Dieu déteste le péché. Il l'a en horreur. L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Éternel fait payer, sa fureur est terrible. Il fait payer ses adversaires, il garde son ressentiment contre ses ennemis. D'un côté, l'Éternel est lent à la colère, sa puissance est immense, mais il ne laisse pas le coupable impuni. L'Éternel fraye sa route dans l'ouragan et la tempête, et les nuées sont la poussière que soulèvent ses pieds. Il menace la mer, il la met à sec, il fait tarir les fleuves. Le Bazan comme le Carmel deviennent des déserts, la flore du Liban se fane. Les montagnes vacillent à son approche, les collines s'effondrent, la terre se soulève devant ses pas, tout l'univers est bouleversé avec ceux qui l'habitent. S'il se met en colère, qui pourra subsister? Et qui tiendra quand son courroux s'enflamme? Car sa fureur se répand comme un incendie, les rochers se renversent à son approche. Un texte. Mais un texte parmi bien d'autres du même style, dans l'Ancien, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et alors c'est vrai, on est quand même un peu gêné avec ce genre de paragraphes qui mettent tellement en avant cette colère terrible de Dieu. Et je me dis qu'on est gêné sans doute parce qu'il nous est difficile de les concilier avec les autres affirmations, celles qui décrivent le Dieu d'amour. Mais pourtant, si on réfléchit un peu, on peut se le demander. Ces deux affirmations sont-elles vraiment si inconciliables? Autrement dit, la colère et l'amour s'excluent-ils nécessairement toujours? Quand, par exemple, une personne que l'on aime profondément cherche à se faire du mal d'une manière ou d'une autre, ne sommes-nous pas, avec raison, en colère par amour? Oui, il y a des colères qui vont dans le sens de l'amour. Et c'est le cas pour Dieu. Comme le disait quelqu'un, la colère de Dieu n'est pas la manifestation d'une humeur grincheuse, mais sa détermination à s'opposer au cancer qui ronge de l'intérieur la race humaine qu'il aime de tout son cœur. Et ce cancer, c'est le mal, le péché. Non, la colère n'est pas l'antithèse de l'amour. C'est l'indifférence qui le serait. Mais le Dieu qui nous aime n'est jamais indifférent. Et on pourrait même aller plus loin là-dessus et affirmer que ce serait refuser l'idée d'un jugement qui serait en fait contraire à l'amour. Czesław Miłosz, prix Nobel de littérature et témoin privilégié, entre guillemets, de la violence dans les Balkans, le disait avec force. Le véritable opium du peuple, c'est de croire au néant après la mort, à l'immense soulagement que l'on éprouve en pensant que nos trahisons, nos lâchetés ou notre cupidité ne seront pas jugées. C'est une illusion qui ouvre la porte au chaos. Où est l'amour quand le mal peut demeurer impuni? Où est l'amour pour ceux qui l'ont subi? Et ne croyons pas, bien sûr, que le mal se limite juste au massacre des guerres. Mais n'est-ce pas là pourtant l'opium de notre monde? Cette marche en avant sans référence à un absolu. Cette porte ouverte à tout, ou presque, sans vouloir en assumer les conséquences. La réalité biblique du jugement est là pour nous garder de cette illusion. La réalité de la comparution un jour de chaque homme et de chaque femme devant le tribunal du Dieu de vérité doit nous empêcher de vivre avec de telles œillères. Elle doit nous faire prendre conscience que le péché est une affaire sérieuse, au nom, justement, du véritable amour. Et même si c'est à contre-courant de notre culture actuelle, nous devons encore entendre et recevoir cela. Non pas, bien sûr, comme le point culminant de l'Évangile, on est d'accord. La bonne nouvelle est et doit rester un message centré sur la grâce et l'amour. Mais comme un message qui part de ce constat-là. Et un message aussi qui ne tire pas un trait trop rapide sur ces vérités, même dans une société relativiste comme la nôtre. Mais alors, ceci étant dit, se pose maintenant une autre question. Cette réalité du Dieu de justice peut-elle être pour nous, malgré tout, un sujet de joie? Pouvons-nous sérieusement nous réjouir de la perspective du jugement de Dieu, comme nous pouvons nous réjouir de sa sagesse qui œuvre dans nos vies, de sa souveraineté qui dirige toutes choses, ou de son indépendance qui montre la gratuité de ses bénédictions? Pouvons-nous nous réjouir de cela? Parce que ça n'a rien d'une évidence, a priori. Et oui, pourtant oui, la réponse et oui, deux fois oui même. Pourquoi? Eh bien d'abord, car cela nous assure, je le répète, que tout le mal sera un jour puni. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai quand même besoin de savoir que toutes les injustices que je vois dans ce monde seront un jour réparées, même si ça doit inclure les miennes. Et, notez-le bien, seule la foi chrétienne proclame ainsi un jugement complet, c'est-à-dire un jugement de tout le mal. L'islam, par exemple, parle de son côté, me semble-t-il, d'un système de compensation. On peut compenser notre mal en faisant du bien. Et c'est bien joli, mais ça n'enlève absolument rien au problème. Car qu'en est-il alors du mal qui a quand même été commis? Dieu peut-il ne pas en tenir compte? Non, si Dieu est parfaitement juste, tout mal, sans exception, doit être puni. Et savoir cela, oui, ça peut nous réjouir, parce que nous découvrons ainsi que notre Dieu est un Dieu d'absolu, et que rien ne peut venir diminuer sa perfection, ses attentes ou sa ligne de conduite. Dieu ne diminue pas pour satisfaire à nos faillites, à nous. Il demeure le même. Il demeure Dieu. Mais par contre, et c'est là notre deuxième sujet de joie, le plus grand bien évidemment, celui qui empêchera ce thème du jugement d'être pour nous un sujet d'effroi, ce qu'il serait malgré tout si on en restait là. Deuxième sujet de joie, Dieu offre la solution. La solution parfaite, la solution la plus sage, la solution la plus juste. La solution d'abord qui accède effectivement à la justice divine parfaite. En prononçant sur chacune de nos vies le verdict sans compromis, coupable. Ne nous leurrons pas. Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais en offrant à ceux qui s'en saisissent par Jésus-Christ de subir complètement ce jugement et cette colère à notre place. Et comprenons bien la perfection de cela. Il y a ici une justice absolue et complète. Car tout mon péché est effectivement puni, sans complaisance aucune. Mais à travers la croix, je peux dorénavant sortir vainqueur du tribunal de Dieu. Vainqueur, car recouvert de la justice du seul être qui a obtenu le verdict non coupable. Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu dans le temps présent car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Mais c'est une folie, nous l'avons dit. C'est la folie de l'évangile de Jésus-Christ. Mais une folie bien plus sage que la sagesse des hommes. Une folie bien plus juste que la justice des hommes. Oui, il y a de la joie devant la justice de Dieu. Oui, il y a de la joie devant le Dieu de vérité. J'en arrive à la conclusion. Avec cette question peut-être, que retenir concrètement pour nos vies de ce panorama sur le Dieu de vérité? Alors sans doute pourrions-nous reprendre les mêmes mots que la fois précédente. Humilité, tout d'abord. Humilité devant une sagesse qui est bien au-dessus de nos voies. Mais confiance en même temps. Confiance devant l'assurance qu'il conduit nos vies avec cette sagesse-là. Crainte aussi, peut-être. Crainte devant la réalité de la colère de Dieu face au péché. Mais évidemment, surtout, reconnaissance et adoration devant la manifestation de la croix et de sa solution. Union parfaite entre la justice et l'amour. Et puis, je rajouterai juste un dernier mot. Ce matin, ce sera l'espérance. Pourquoi l'espérance? Eh bien, tout simplement car le Dieu qui est vrai en toute chose est aussi le Dieu qui fait des promesses. Et donc, puisqu'il est vrai, des promesses qu'il tiendra. Et j'aimerais pour terminer vous rappeler deux de ces promesses. Deux promesses pour nous encourager à placer toujours plus notre espérance et notre foi en Dieu. Pour nous encourager à persévérer dans cette foi et dans cette espérance. Une première promesse tout d'abord, par rapport justement au jugement dont on vient de parler, et à cette assurance que nous pouvons avoir, que Jésus prend le jugement de celui qui lui fait confiance. Oui, vraiment, je vous l'assure, dit Jésus. Je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Le prix de la justice a été payé. Et puis, une deuxième promesse pour chacun d'entre nous, peut-être, qui a du mal à discerner la sagesse des plans de Dieu dans sa vie. Mais c'est une promesse pour l'après, en fait. Là où l'objectif de Dieu pour nous sera enfin pleinement réalisé. Et c'est aussi, je crois, ce qui maintient notre espérance vivante. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » C'est là, soyons-en sûrs, que conduit la sagesse de Dieu. Que le Dieu de vérité ancre ses promesses dans chacun de nos cœurs, qu'il ancre ses promesses dans chacune de nos vies, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.